Alors, je vais passer la parole à Marie Venot, qui est ergothérapeute et fondatrice de l'entreprise Villanthrope. Bonjour à tous. C'est un petit peu impressionnant d'être en bas et vous tout en haut. Je me présente effectivement, je suis Marie Venot, je suis ergothérapeute et je viens de créer mon entreprise, plutôt mon atelier conseil qui s'appelle Villanthrope. L'objectif de Villanthrope, c'est de remettre justement la vie au centre des projets et au centre des territoires. Et donc, vie au sens de l'usage et aussi de la santé. Mais on pourra en parler plus après. Donc là, l'histoire que je comptais vous présenter, c'est l'histoire collaborative de l'évolution d'usage d'un lieu public culturel de quartier, à savoir la bibliothèque, et en particulier de la bibliothèque Saint-Nicolas à Angers, et comment, quand j'ai travaillé auprès de la ville d'Angers, on a pu adapter une bibliothèque pour le public senior. Alors, j'ai mis mon petit papier. Alors, l'histoire, elle commence avec le contexte. Tout d'abord, des chiffres. Donc, en fait, cette bibliothèque, elle est inscrite dans un quartier plutôt vieillissant, représenté par des seniors jeunes retraités actifs, par des personnes isolées et fragiles, qui sont à domicile et en hébergement collectif. On a aussi remarqué une augmentation significative des animations pour le public âgé, organisées par le CCAS, et des besoins qui émergent de la part du public âgé, en termes notamment de livres adaptés, en termes de lieux pour sortir, et puis surtout une envie et un besoin d'être à la page, notamment au niveau numérique, dont on a parlé ce matin. Et puis le contexte est aussi une volonté politique, puisque Angers est inscrite auprès de la ville amie des aînés, avec un chargé de mission depuis 2015. C'est aussi la ville pilote des objets connectés, notamment François Hollande est venu du coup inaugurer une sorte de laboratoire en 2016, je crois, ou 2017. Et puis, la volonté politique, c'est aussi l'emploi d'un responsable de bibliothèque, expert de l'accueil et de l'animation pour les personnes âgées depuis 2015. Donc au vu de tout ça, il y avait un souhait de créer quelque chose et de transformer quelque chose. Donc le but de cette transformation, c'est de prévenir la rupture des pratiques culturelles et sociales des personnes âgées, voire de développer ces pratiques, notamment la pratique numérique. C'est de lutter contre la perte d'autonomie des personnes âgées et de maintenir le lien social et le vivre ensemble. Et c'est surtout ça, vous verrez, qui va vraiment être développé lors de ce projet. Les objectifs, c'est de faire évoluer l'offre de services de la bibliothèque comme un espace public intergénérationnel de lecture, de vie sociale et culturelle de proximité, de favoriser l'accès à la bibliothèque en tant qu'espace, mais aussi par rapport aux activités propres d'une bibliothèque et aux animations pour le public âgé. Et puis c'est de favoriser au sein de la bibliothèque des échanges, de la convivialité, mais aussi du confort et de ressourcement. On parlait tout à l'heure avec Laurent Merlin du chez-soi, mais à un moment donné, on peut aussi se ressourcer dans des espaces publics. Et tout le monde en a besoin. Alors, la mise en œuvre. Donc déjà, ce qui était super intéressant, c'est qu'il y a eu la mise en place d'un comité technique pluridisciplinaire. Donc en termes de pluridisciplinarité, donc il y avait le CCAS, la direction de la culture, le chargé de mission vis-à-vis des aînés, et puis donc moi en tant que chargé de mission handicap, provenant de la direction de la santé publique, service handicap accessibilité. Donc on est vraiment en termes de pluridisciplinarité, pluriculture, mais tout ça dans une collectivité. Et puis donc du coup, moi, j'ai eu pour objectif, en tant que chargée de mission handicap, alors ça aussi, on peut dire handicap, personne âgée, on pourra en tout cas en reparler, parce qu'il y a la personne vieillissante avec ses particularités, mais qui peuvent aussi devenir des situations de handicap. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu vraiment la volonté de faire appel à un ergothérapeute qui est plutôt spécialiste de la compensation. Donc par rapport à ce... Donc, pour transformer l'usage, il y a donc eu la réalisation d'un diagnostic. Donc la méthode de l'analyse était un petit peu particulière et c'était un vrai souhait de ma part, puisqu'en fait on est déjà parti des besoins. C'est-à-dire les besoins de la personne âgée, de manière générale, par rapport à ses particularités. Donc il peut y avoir une fatigabilité, il peut y avoir une perte auditive, une perte visuelle, il peut y avoir un besoin de repère, un besoin justement de ressourcement. Et du coup, l'objectif c'était de croiser les caractéristiques naturelles de la personne âgée avec les missions de la bibliothèque. Donc la bibliothèque, c'est évidemment lire, mais c'est aussi lire sur place, c'est emprunter un livre, c'est communiquer, c'est s'orienter dans une bibliothèque, hein, voilà, c'est un petit peu tout ça. Et puis ensuite, moi ce que j'ai fait, et ça c'est mon rôle d'ergothérapeute aussi, c'est observer l'usage. Et observer l'usage, c'est à la fois l'usage de la personne âgée au sein de l'espace bibliothèque, mais c'est aussi observer l'usage du professionnel dans la bibliothèque. Comment lui aussi il s'y prend pour accueillir la personne âgée, pour modifier certains espaces, pour animer, qu'est-ce qu'il utilise, et du coup comment on croise tout ça. Et donc en observant l'usage, moi j'ai observé avec des activités, c'est-à-dire comment la personne elle se déplace, mais comment elle se déplace depuis l'extérieur de la bibliothèque. C'est-à-dire par exemple depuis l'arrêt de bus, ou depuis l'arrêt de métro, depuis la place de parking personnes handicapées, depuis la résidence en hébergement collectif, quel chemin elle va prendre, comment elle va s'orienter pour arriver jusqu'à la bibliothèque. Une fois dans la bibliothèque, comment elle va se sentir accueillie pour rentrer dans la bibliothèque. Ensuite, comment elle va être accueillie, comment on va pouvoir communiquer avec elle. Est-ce que c'est... donc du coup, on va regarder l'éclairage, on va regarder aussi si la personne est peut-être malentendante, donc on va peut-être diminuer notre débit de parole. Et puis ensuite, c'est comment elle va s'orienter. Est-ce qu'il y a une signalétique à l'intérieur? Est-ce qu'on va l'accompagner ou pas? Et puis après, évidemment, la réalisation classique des activités d'une bibliothèque, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'activité d'emprunt et de retour, l'activité du choix d'ouvrage, l'activité de la lecture sur place. Donc il peut y avoir de la lecture de quotidien, il peut y avoir la lecture d'ouvrages, et puis donc du coup la participation aux animations. Et donc cette observation d'usage, c'était, on a regardé les freins et les ressources à la réalisation en autonomie de ces activités que je viens de vous décrire. Et puis toujours par rapport à l'usage, ce qui était hyper intéressant, c'était d'aller interviewer les personnes. Et donc dans ces interviews, en tout cas, moi ce que j'ai choisi, donc ça peut être un biais, mais en tout cas c'était pas forcément une volonté de représentativité et d'exhaustivité, mais plus de comprendre comment les gens agissaient. Donc voilà quelques photos du cheminement et de voir sur ce cheminement, donc depuis l'extérieur, quels sont les freins et les ressources. Alors évidemment, il y a la réglementation relative à l'accessibilité, hein, que vous connaissez tous, alors qui, je reviens un tout petit peu d'historique, mais je trouve que c'est important, mais qui existe depuis quand même 1975, on dit qu'elle existe depuis 2005, mais ce qui n'est pas le cas, elle a été remise au bout du jour en 2005. Donc en tout cas, moi je me suis appuyée sur la réglementation relative à l'accessibilité, et puis sur ce qu'on appelle la qualité d'usage, donc l'accessibilité universelle, qui va bien au-delà de la réglementation relative à l'accessibilité, et puis surtout qui remet du sens. Ce matin, on parlait de sens. C'est-à-dire que les architectes, effectivement, se doivent de répondre à la réglementation relative à l'accessibilité. Encore faut-il qu'il y ait du sens et qu'elle ne soit pas forcément prise comme une contrainte. Voilà, donc, notamment en orange, vous avez les freins pour, par exemple, accéder à l'entrée de la bibliothèque avec une marche, avec des gravillons, avec des verres. Là, on est plus au niveau de l'entrée de la bibliothèque. Alors, par exemple, à gauche, en tout cas, moi, la première chose qui me frappe, c'est la lumière naturelle. Donc, la lumière naturelle, c'est génial. Sauf qu'en fait, là, clairement, elle peut gêner la personne parce que quand elle arrive, c'est tout de suite ce qu'elle est en face. Et quand on commence à avoir une déficience visuelle, due à l'âge, du coup, la rétine, elle a des difficultés à se réapproprier le niveau lumineux. Donc, ça peut être compliqué, ne serait-ce que pour voir l'accueillant. Surtout quand on vient pour la première fois à la bibliothèque et qu'on ne sait pas forcément où il est placé. Ensuite, on a la banque d'accueil. Et notamment au niveau de la banque d'accueil, il y a ce qu'on appelle une boucle magnétique, pareil, qui est obligatoire. Encore faut-il que les personnes âgées savent à quoi ça sert, que les accueillants savent à quoi ça sert. Et puis ensuite, donc on a notamment au sein de la bibliothèque, donc en termes de circulation, on peut avoir quelques obstacles, comme par exemple là, le porte-manteau, qui peut être gênant pour passer, puisque par exemple la largeur de circulation peut être compliquée quand on a des cannes, quand on a un déambulateur ou quand on a simplement besoin d'écarter un peu plus les pieds pour marcher correctement. Alors là, on est plus au niveau des rayons. Donc on s'aperçoit que les rayonnages font une hauteur d'environ 1,60 m. Donc en tout cas, quand on est une personne âgée et qu'on peut avoir des difficultés motrices pour lever le bras, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc on a revu ça aussi, notamment avec les bibliothécaires. Alors on verra tout à l'heure, mais ils ont fait ce qu'on appelle du désherbage. Moi j'adore ce mot. Ça veut dire qu'à un moment donné, on enlève certaines collections, justement pour faire de la place et pour avoir un accès, par exemple, entre 90 et 130 cm, qui soit juste à hauteur du bras, sans faire trop d'efforts. Voilà, puis on a revu aussi la largeur, enfin ça on en reparlera. Et puis donc là, c'est sur la gauche en bas, ce sont les tables pour les animations, alors qui sont installées, on va dire, assez simplement. Et puis tout à l'heure, on parlait de l'usage des professionnels. Ils sont amenés beaucoup à bouger les tables, mais ces tables ne sont pas sur roulettes. Donc à un moment donné, au niveau des risques psychosociaux, ça peut être compliqué. Donc ça aussi, c'est à bien regarder. Alors justement, les préconisations, alors donc évidemment, elles sont à la fois ciblées sur l'environnement physique, sur l'environnement humain, donc c'est-à-dire comment l'humain, c'est-à-dire l'accueillant, par exemple, va communiquer avec la personne âgée, comment elle va l'accompagner aussi, par exemple, pour choisir un livre, ou juste pour l'accompagner aux toilettes, et puis aussi des préconisations qui sont ciblées sur la population âgée elle-même, c'est-à-dire à un moment donné, comment elle, à la bibliothèque, elle peut compenser quelques difficultés. Et donc, ce que je vous disais, les préconisations sont liées à la réglementation relative à l'accessibilité et nourries par la qualité et le confort d'usage. Alors, des exemples de préconisations, par exemple, pour lire. Alors, j'imagine que vous connaissez tous, mais ça ne mange pas de pain d'en reparler, mais on va avoir les livres gros caractères, on va avoir des livres audio, on va avoir notamment des loupes électroniques qui peuvent grossir par exemple la presse. On peut avoir aussi des téléagrandisseurs. Toujours pour lire, il peut y avoir des tables avec des plans inclinables pour rapprocher l'ouvrage plutôt que de baisser la tête et d'avoir mal au cou et au dos à la fin de sa lecture. On va travailler sur l'éclairage, un éclairage direct, un éclairage indirect qui va être plus ou moins tamisé. Et puis sur des points lecture de confort, puisqu'à un moment donné, une bibliothèque, ça peut être aussi peut-être un petit peu bruyant, et ça peut être intéressant d'aller juste se ressourcer, lire, et puis après repartir chez soi. On a vu qu'il y avait un peu de monde, ça remplit en tout cas, et après on peut repartir. Des préconisations pour communiquer, donc on parlait tout à l'heure de boucles magnétiques, donc à la fois à l'accueil, mais ça peut être aussi des boucles magnétiques pour communiquer pendant une animation. Il y a des boucles magnétiques qui sont transportables. Ça peut être aussi des boucles magnétiques dans l'enceinte d'un lieu. Donc, par exemple, ici, je ne sais pas s'il y a des boucles magnétiques, mais ça peut être ça aussi. Pour communiquer, il y a aussi évidemment l'éclairage. Hein. Donc, tout à l'heure, on a vu que la lumière naturelle elle faisait un effet pas très agréable visuellement. Donc on va peut-être faire attention aussi à ce qui est peut-être des stores, ou peut-être que le sol, en tout cas, soit peut-être moins réverbérant, je ne sais pas comment on dit. Et puis pour communiquer, bah, ça va être aussi l'accueillant. Donc peut-être qu'il va faire attention à communiquer plus doucement, à utiliser peut-être un vocabulaire pas trop difficile, ou à bien articuler pour que la personne elle puisse aussi faire par exemple de la lecture labiale, ce genre de choses. Ce qu'on a vu tout à l'heure, donc, pour circuler, bah, c'était moins d'étagères pour garder une largeur suffisante, soit donc, ce que je vous disais avec un fauteuil roulant ou avec un déambulateur, ou parce qu'on est accompagné, donc quand on est accompagné, évidemment, on prend plus de place. Et puis, tout à l'heure, je ne sais plus qui est-ce qui a montré, si c'est le monsieur de l'UTC, qui montrait une sorte de déambulateur, mais par exemple, on pourrait imaginer dans une bibliothèque d'avoir des caddies qui pourraient évidemment servir pour les personnes âgées, mais qui peuvent servir pour tout le monde. Moi, quand je vais à la bibliothèque, j'ai genre 10 livres sous le bras, C'est lourd, j'en peux plus, sauf que si j'avais un caddie, ben, ce serait super. Donc voilà, ça peut être une aide technique comme ça. Et puis le bibliothécaire me disait, Marie, surtout n'oublie pas, dis bien que dans une bibliothèque, il faut avoir un petit espace pour garer les déambulateurs, les fauteuils. Il dit, ça prend une place de dingue, et du coup, ça empêche de circuler correctement. Donc c'est des petites choses, mais en fait, ça change l'usage d'un lieu. Et puis pour s'orienter, alors en autonomie ou pas, mais le mieux c'est en autonomie, et puis surtout ne pas se sentir stressé parce qu'on arrive dans un nouveau lieu. C'est par exemple une signalétique au sol, donc ça peut être des couleurs, ça peut être des flèches, et puis c'est aussi de travailler sur la signalétique pour les livres, par exemple avec, mais ça il y en a beaucoup dans les bibliothèques, mais des fois c'est pas forcément si évident de comprendre la logique du bibliothécaire, donc ça va être de travailler sur la signalétique, par exemple roman ou roman policier, ou livre gros caractère, ou livre audio, et puis si besoin évidemment de se faire aider par le bibliothécaire. Et puis donc pour les professionnels, ce que je vous disais, c'était vraiment le mobilier roulant. Et puis surtout, encore une fois, le bibliothécaire m'a dit, surtout insiste bien, la formation continue. Puisqu'à un moment donné, accueillir et communiquer avec une personne âgée, c'est pas donné à tout le monde, et c'est important d'avoir des compétences. Donc l'actualité du projet, donc je suis allée le voir, c'était quand il y a un mois. Donc, du coup, en tout cas, à l'extérieur, donc maintenant, il y a une rampe d'accès. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça va ? Alors, à l'intérieur, comme vous le voyez, il y a beaucoup moins d'étagères avec des livres qui sont rangés, en tout cas, ni trop haut, ni trop bas, donc entre 90 et 130. Alors, ils ont un petit peu travaillé sur l'éclairage, mais pas tant, mais on reverra pourquoi par rapport aux contraintes. Et puis, donc, je vous parlais du fameux désherbage. Voilà, donc avec aussi du mobilier un petit peu plus confortable pour pouvoir s'asseoir. Et puis, ce que je trouve aussi chouette, c'est que c'est pas un siège, c'est deux. Parce que même si on a envie de se ressourcer, on a peut-être envie de papoter avec la personne d'à côté, finalement. Parce que c'est aussi ça, une bibliothèque. Alors, quelques chiffres, puisque c'était ça qui était important aussi. Donc en fait, il y a une augmentation significative des visites du public âgé. Donc sur 400 inscrits à la bibliothèque de quartier, il y a plus de la moitié des personnes qui sont aujourd'hui des personnes âgées. Il y a une forte proportion des inscrits âgés qui ont plus de 60 ans par rapport au total des abonnés adultes à la bibliothèque. Donc 63%. Et par rapport à deux bibliothèques de quartier, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup moins de personnes âgées. Donc on peut faire une corrélation entre, à un moment donné, la volonté d'adapter, mais finalement assez simplement, pour les besoins d'un public en particulier, et le fait que, j'allais dire heureusement, tant mieux, mais en tout cas il y a une augmentation de fréquentation. Et puis la présence lecture qui s'intensifie, et ça c'est super important parce que ça veut dire qu'à un moment donné, le lieu devient effectivement un lieu ressource, un lieu où on a envie d'aller, soit pour être tranquille, mais aussi pour voir d'autres gens et échanger. Donc quelque part on a répondu à nos objectifs. La lecture, donc aujourd'hui, les bibliothécaires ont 1300 ouvrages gros caractères en rayon, font 4 commandes par an, ce qui est quand même assez conséquent. Par contre, il y a peu d'emprunts de livres audio. Ils vont étudier pourquoi. Est-ce que c'est parce que l'étagère des livres audio est placée à un autre endroit ? Il y a aussi une difficulté pour utiliser ce qu'on appelle le Victor Reader. C'est un appareil exprès pour écouter les livres audio. On marque les pages, on peut revenir en arrière. Voilà. Et alors, à la base, c'est un outil qui a été conçu pour des personnes déficientes visuelles, donc qui provient du milieu du handicap, mais qui peut servir pour le public âgé. Les animations, donc aujourd'hui, il y a 49 animations, donc 4 autour du numérique, notamment autour de la tablette. Donc, ça fait environ 7 animations par mois. 745 participants, participantes, dont 67 personnes du public d'accueil adapté. Et parmi ces 745 participants, 50 à 75% des personnes qui sont du quartier. Donc on répond aussi à un autre objectif, qui est que la bibliothèque devient un vrai lieu public de quartier, en fait. Et puis on a aussi beaucoup travaillé sur la communication, donc il y a un encart spécial dans le journal Port de Maine. Donc c'est un journal qui est à public, le public cible, les personnes âgées de la ville d'Angers. Donc il y a un encart spécial qui explique toutes les animations qu'il y a au sein de la bibliothèque Saint-Nicolas et tout ce qu'on peut y trouver. Et puis il y a une communication particulière avec la résidence d'hébergement collectif. Alors, mais je pense que j'ai déjà dépassé mon temps. Les frères rencontrés pendant cette aventure, c'était qui paye quoi ? Parce que du coup, le pluridisciplinaire, c'est génial, mais à un moment donné, est-ce que c'est le CCAS ? Est-ce que c'est la direction des cultures ? Est-ce que c'est la direction santé publique ? Enfin voilà, donc ça c'était un peu compliqué. Le temps, puisque du coup on a commencé cette étude fin 2015 et les travaux ont commencé à être réalisés fin 2017. Et puis il y a des choses qui ont été faites en fait par les bibliothécaires, c'est-à-dire le désherbage et notamment augmenter la largeur de la circulation entre les rayons, si les bibliothécaires qui se sont débrouillés avec ça. Donc de l'énergie et beaucoup de réunions. Alors là, je fixerai, mais c'est la réunionnite des collectivités. Le bâtiment qui était dans une copropriété. Donc à un moment donné, par rapport aux travaux extérieurs, il a fallu faire une réunion extraordinaire, un conseil extraordinaire, pour savoir si c'était possible de mettre la rampe d'accès dans la cour commune, en fait. Puis après, la question, c'est la bibliothèque, finalement, est-ce que c'est vraiment le seul espace de lien social et de lutte contre la fracture numérique, entre autres ? Puisqu'en fait, dans la bibliothèque, il y a deux professionnels à temps plein, et le reste, ce sont des bénévoles. Donc ça vaut le coup de réfléchir, quand à un moment donné, on a un public vieillissant dans un quartier, est-ce qu'il n'y a pas d'autres lieux, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à mettre en place, aussi, en plus de la bibliothèque ? Même si elle est inscrite dans le quartier, effectivement. Un autre frein, et c'est vrai que moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est peu de prise en compte de l'usage professionnel et des difficultés rencontrées, et notamment de la formation continue. On n'est pas accueillant et on n'est pas animateur pour un public âgé comme ça, du jour au lendemain. C'est pas vrai. Ça demande des compétences particulières. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que du coup, il y a peu de liens avec le monde du handicap. Et on le voit bien aussi aujourd'hui de manière générale, c'est-à-dire que on parle beaucoup, notamment aux informations, et les volontés politiques sont beaucoup plus ciblées sur le public âgé. On parle beaucoup de la cyber économie, mais c'est vrai que le public handicapé, finalement, ça paraît moins vendeur. Bon, c'est vrai qu'il y en a moins, il n'y en a que 10 millions en France, mais pourtant, les besoins peuvent être similaires. Et à un moment donné, de se rassembler et de faire des ponts, ça peut être intéressant. Tout à l'heure, je vous parlais de la loupe électronique, ou du téléagrandisseur, ou du lecteur Victor Reader en audio. Mais ce sont des aides techniques issues du milieu du handicap, mais qui peuvent servir. Et aussi en termes associatifs, en tout cas. Il peut y avoir des liens. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, si vous avez... Donc en tout cas, sur la clé USB que vous a donné Futurage, il y a la plaquette de mon atelier conseil philanthrope, et puis normalement il y a aussi la présentation et je suis à votre disponibilité.
Est-ce qu'il y a des questions à propos de cette présentation ?
Oui, bonjour, Roger Bayeux, établissement public en Torlis-MBE, et donc un territoire qui travaille beaucoup sur la question du bien vieillir et de la cyber-économie. Juste votre intervention me fait reboucler avec une autre initiative qui s'est tenue dans notre cadre, celui d'un hackathon étudiant, donc de 24 heures, avec toutes les limites que ça peut avoir, mais aussi l'émergence qui était intéressante. Et un des projets qui a d'ailleurs été exprimé, c'était la question, effectivement, il y a la question de l'équipement, l'accessibilité au sein de l'équipement, mais aussi aller jusqu'à l'équipement. Il y a des fois une distance de 300-400 mètres, c'est très long pour une personne âgée qui a des difficultés, qui doit s'asseoir. Et donc, juste que, voilà, dire que dans ce cadre-là, il y avait un projet de chaises amovibles qui se greffent sur le mobilier urbain, qui peut être débloqué, pour permettre aussi d'y aller en faisant des pauses, pour rendre aussi ces équipements qui eux-mêmes ont été équipés, mais aussi vraiment accessibles. Mais elle est très intéressante, merci.
En tout cas, effectivement, c'est important, c'est-à-dire que on ne peut pas juste rendre accessible un lieu si autour on ne peut pas y aller. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, effectivement, Alors après, c'est la problématique, je crois que c'est au Canada où ils préconisent sur l'espace public un banc tous les 300 à 500 mètres. C'est énorme. Et puis après, ben, il y a d'autres, ce qu'on appelle les conflits d'usage, où si on installe des bancs, bon, et bien, du coup, politiquement, mais c'est, voilà, il va y avoir peut-être du squattage de personnes sans domicile fixe ou des jeunes qui font du skate. En tout cas, tout ça, ça se réfléchit. Et en tant que, pourquoi pas, ça fait aussi de la vie dans une, enfin, dans une rue. Et,
Vous avez parlé des livres en gros caractères. Est-ce qu'il y a des achats spécifiques pour les personnes âgées? Et est-ce qu'ils sont regroupés? Est-ce qu'on envisage de les regrouper? Je sais bien que ça peut être du compte. Les regrouper dans une bibliothèque, dans une partie de la bibliothèque pour le lectorat âgé. Est-ce qu'on se pose ce genre de questions?
Oui, tout à fait. Oui, justement, là, c'est ça qui était intéressant, c'est que. Il y avait donc à la fois, on va dire, la bibliothèque toute publique, hein, puisque tout le monde n'a pas effectivement les mêmes besoins, et en effet, là, des livres gros caractères qui ont été mis à un endroit bien particulier et tout de suite visible, et où il n'y a pas besoin de se déplacer à l'autre bout de la bibliothèque pour aller les chercher. On reste dans une logique d'usage, justement. Et par rapport, donc de plus en plus les éditeurs font éditent des livres gros caractères et ne les éditent pas genre 5 mois après la sortie du livre ordinaire, si vous me permettez ce langage-là. Et puis après, il y a aussi les livres d'eau, mais il y a de plus en plus en fait, et puis les bibliothèques numériques qui permettent justement de grossir aussi comme on veut le caractère, et qui sont, il y a de plus en plus d'abonnements de bibliothèques numériques. Vous pouvez aller à votre bibliothèque de quartier ou à votre médiathèque, et il y a vraiment de plus en plus de choses qui sont mises en place. En termes de livres audio aussi, il y a des livres parlés. Donc il y a des associations qui proposent ce genre de service, ou d'ailleurs vous pouvez même être bénévole pour donner votre voix.
Ça existe depuis longtemps.
Oui, tout à fait.
Les échanges par la poste.
Oui, exactement. Mais en tout cas, c'est au niveau national, il y a vraiment de plus en plus de choses qui sont faites. À ce niveau-là. Et puis les livres gros caractères, sincèrement, enfin moi des fois, quand je lis beaucoup, mais les romans où c'est écrit genre en police suite, juste je lis pas, j'en peux plus, quoi. Et d'avoir un livre gros caractère, c'est sûr ça prend un peu de place, mais des fois c'est pas mal. Merci de votre attention en tout cas.
Merci Marie Benoît. Donc on a vu un exemple d'un espace public, de l'adaptation d'un espace public aux besoins des personnes âgées.